Le journal est présenté par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Nous ferons le point sur les très vives tensions entre Washington et Téhéran qui ont bien failli déboucher hier soir sur une escalade militaire. Sur Twitter, Donald Trump affirme avoir annulé les frappes contre l'Iran quelques minutes avant. Nous irons dans la Roure où des milliers de militants venus de toute l'Europe sont bien décidés à bloquer une mine de charbon. Dans l'actualité française, cette question angoissante, les lignes à haute tension présentent-elles un risque pour la santé de nos enfants? La réponse de l'Agence nationale de sécurité sanitaire n'est guère rassurante. Il existe de possibles risques de leucémie. Le lancement d'un plan de lutte contre les mutilations sexuelles féminines et en particulier l'excision, 60 000 femmes seraient concernées en France. Et puis à la fin de cette édition, l'enquête de la cellule Investigation de Radio France s'intéressera cette semaine à la mafia du sable en Inde. Est-on passé à côté d'une escalade militaire hier soir? Selon le New York Times, les États-Unis avaient prévu de frapper militairement l'Iran. Mais au dernier moment, le président américain avait donné l'ordre de tout arrêter. Et c'est sur Twitter, comme à son habitude, que Donald Trump a apporté des précisions aujourd'hui. Il confirme avoir annulé les frappes 10 minutes avant. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Antoine.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Donald Trump affirme ne pas être pressé de répondre militairement à l'Iran.
Non, pas pressé, dit-il, car les sanctions continuent d'affaiblir la République islamique. L'Iran, qui écrit le président américain, ne devra jamais avoir accès à l'arme nucléaire. Alors les 4 tweets de Donald Trump ce matin sont assez édifiants, car ils racontent de manière très détaillée ce qui s'est passé hier à la Maison-Blanche et les débats normalement hautement confidentiels sur l'opportunité ou non de frapper l'Iran militairement. 3 sites auraient pu être visés, précise Trump. Nos armes étaient chargées, comprenez, les avions étaient en vol. Alors explique le président américain. J'ai demandé à un général combien de morts, si cette opération est lancée, combien de morts peut-elle provoquer? 150, a répondu le militaire. Et donc Donald Trump affirme que 10 minutes avant les frappes, il a arrêté cette opération car, dit-il, la réponse n'était pas proportionnée par rapport à la perte du drone américain. Le récit présidentiel semble donc confirmer qu'on est passé hier assez près d'une escalade militaire gravissime, d'autant plus qu'au même moment, les Iraniens disent, eux, qu'ils auraient pu abattre dans leur espace aérien un avion militaire américain avec 35 personnes à bord. Alors il y a sans doute dans toutes ces révélations un peu de bluff de chaque côté, une manière de montrer les muscles, mais il est certain que faire décoller ainsi des avions de chasse, puis les faire revenir dans cette région du monde est une opération risquée qui peut évidemment avoir des conséquences militaires imprévisibles.
Merci à vous Grégory Phillips. Tout est parti d'une affaire de drone, donc de la marine américaine abattue hier par l'Iran. Téhéran affirme que l'appareil a violé son espace aérien, ce que dément l'armée américaine. Dans la journée, la télévision iranienne a diffusé des images présentées comme celles des débris du drone. À Téhéran, les précisions de Siavosh Ghazi.
Pour l'instant, les Iraniens n'ont pas réagi au dernier tweet du président Trump, mais les responsables iraniens multiplient depuis hier soir les mises en garde aux Américains. Ainsi, l'Iran a montré pour la première fois des photos des débris du drone américain abattu jeudi, en affirmant qu'ils avaient été récupérés dans les eaux iraniennes. Une manière de démentir les affirmations américaines selon lesquelles le drone a été abattu au-dessus des eaux internationales. Ces débris ont été ramenés à Téhéran. Le chef de la force aérospatiale des gardiens de la révolution, le général Hajizadeh, a affirmé que des avertissements avaient été lancés à 2 reprises au drone qui n'avait pas changé de cap. Il a aussi précisé qu'un autre avion espion américain de type P-8 avec 35 personnes à bord accompagnait le drone, mais que les Iraniens ont décidé de ne pas l'abattre. Notre objectif était de donner des avertissements aux Américains, a déclaré le général Hajizadeh. Téhéran a également convoqué l'ambassadeur suisse, dont le pays représente les intérêts américains en Iran, pour transmettre un message très précis aux États-Unis. L'Iran ne cherche pas la guerre avec les Américains, mais répondra sans attendre à toute agression, a déclaré ce diplomate iranien à l'ambassadeur suisse. Il n'empêche, les Iraniens dans leur ensemble craignent toujours un dérapage qui pourrait provoquer une confrontation militaire entre Téhéran et Washington.
Le président du Parlement géorgien a remis sa démission aujourd'hui, une décision qui fait suite aux heurts qui ont opposé la nuit dernière la police à des milliers de manifestants. 200 personnes ont été blessées. Tout est parti de l'intervention d'un député russe dans l'hémicycle. La présence de ce député au Parlement a choqué dans un pays où beaucoup considèrent la Russie comme une puissance occupante d'une partie du territoire. Audrey Tizan.
Sergueï Gavrilov qui monte à la tribune du Parlement géorgien pour s'exprimer depuis la place du président de l'hémicycle. C'est l'image qui a mis le feu aux poudres. Ce député russe était venu s'exprimer dans le cadre d'une réunion internationale sur l'orthodoxie. Mais voir un élu communiste russe dans une telle position, cela a de quoi choquer l'opinion publique géorgienne. Manifestation devant le Parlement, jusqu'à 10 000 personnes viennent protester derrière des banderoles. La Russie est un occupant. Beaucoup n'ont pas digéré l'épisode de 2008, intervention militaire russe dans le nord de la Géorgie, dans les provinces séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Guerre éclair et Moscou proclame ces deux provinces indépendantes. De quoi tendre un peu plus les relations à fleur de peau entre la petite République de Géorgie et l'immense voisin russe. Particulièrement remontés, certains manifestants ont tenté hier de pénétrer dans le Parlement, bâtiment protégé par les forces de l'ordre, échange de projectiles, de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc jusque tard dans la nuit. Au moins 240 blessés, surtout des manifestants, quelques policiers. Devant le tollé, le président du Parlement géorgien décide donc de démissionner, non pas pour donner raison à l'opposition, mais par sens des responsabilités, dit-il. Pas suffisant pour l'opposition géorgienne qui exige des élections législatives anticipées et la démission du ministre de l'Intérieur. Le parti Mouvement National Uni de l'ancien président Saakachvili a lancé un nouvel appel au rassemblement ce soir. Il se dit prêt à organiser des manifestations pacifiques permanentes jusqu'à obtenir satisfaction.
Ils sont venus de toute l'Europe. Plusieurs milliers de militants anti-charbon sont actuellement dans la Roure. Ils ont établi depuis mercredi un immense camp climatique et ils ont prévu d'occuper aujourd'hui une mine à une trentaine de kilomètres de là. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et tous.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Les manifestants ont-ils réussi à déjouer les nombreux barrages de police pour pénétrer sur le site ?
Ouais, déjouer, c'est exactement le mot, Antoine. Les militants doivent user de ruses pour tenter d'atteindre les différents objectifs. C'est plutôt une progression très lente, je dirais, pour ces premières heures, ces huit premières heures. Les cibles sont de gigantesques mines de lignite à ciel ouvert ou bien des centrales à charbon classées parmi les sites les plus polluants d'Europe. Il y a donc dispersé dans la région 4 à 5 000 personnes réparties en quatre groupes de différentes couleurs, argent, rose, rouge et vert. Andreas Müller, le porte-parole de la police d'Aix-la-Chapelle.
C'est vraiment une situation qui change en permanence. Il y a beaucoup de mouvements autour de la mine et on doit répartir nos forces pour surveiller chaque groupe afin d'éviter une situation compliquée qui serait pour nous l'occupation d'une mine. Nous devons donc rester très agiles pour réagir à un tel scénario.
Pour cette action de désobéissance civile, 300 Français figurent parmi tous ces Européens. Ils ont pour l'essentiel pris place dans le groupe de couleur argent près duquel je me trouve. Johan, 25 ans, originaire de région parisienne, raconte cette première journée.
Pour l'instant, franchement, ça a été surtout beaucoup d'attentes. On a été immédiatement suivi par la police. On aurait avancé probablement beaucoup plus vite s'ils n'avaient pas été là. On a dû négocier de est-ce qu'on pouvait monter dans les bus. Puis après, c'est vous pouvez monter dans les bus, mais que si vous laissez vos masques et vos sacs de couchage. Après, on a négocié d'avoir quand même les sacs de couchage. Et pour l'instant, on a surtout négocié avec la police pour arriver à ce point-là. Mais on a tous qu'une seule envie, là, c'est de rentrer dans la mine. Ça a l'air très désordonné, mais c'est beaucoup plus ordonné qu'on ne le croit.
Et l'opération est prévue pour durer 48 heures. Les Allemands de l'organisation Endegelände ne laissent en effet pas grand-chose au hasard. Ils en sont à leur cinquième opération de blocage dans cette région de la Roure et espèrent bien d'ici la tombée de la nuit atteindre de premiers objectifs. Ils espèrent aussi, Antoine, être renforcés par une partie des 20 000 jeunes qui sont descendus dans la rue comme chaque vendredi pour le climat et qui ont, ce n'est pas un hasard, choisi ce vendredi la ville d'Aix-la-Chapelle à moins de 50 km d'ici.
Merci à vous Ludovic Piétenu. Deux opposants au président Idriss Déby, dont un important chef rebelle, doivent être présentés aujourd'hui à des juges d'instruction, deux ans après l'ouverture à Paris d'une enquête pour crimes contre l'humanité. L'enquête porte sur des opérations de recrutement d'enfants soldats au Tchad et au Soudan. Le général Mamat Nouri et l'opposant Abakar Tolimi ont été déférés au parquet. Parquet qui a ouvert une information judiciaire pour crimes contre l'humanité, complicité de ces crimes et participation à un groupement formé en vue de la préparation de crimes contre l'humanité. 18 heures passées de 9 minutes sur France Culture dans l'actualité française. Cette question, les lignes à haute tension présentent-elles un risque pour la santé de nos enfants? L'Agence nationale de sécurité sanitaire n'est pas catégorique, mais ce qu'elle dit aujourd'hui a de quoi inquiéter. Selon l'ANSES, il existe de possibles risques de leucémie chez les enfants qui habitent à proximité. Claire Flochel.
L'ANSES avait déjà alerté en 2010 sur un possible lien entre l'exposition aux champs électromagnétiques basse fréquence et le risque de leucémie infantile. L'Agence nationale de sécurité sanitaire maintient son alerte, même si aucun lien de cause à effet n'a été depuis démontré. Olivier Merkel est le responsable de l'unité d'évaluation des risques physiques à l'ANSES.
On a malgré tout donc de nouvelles données scientifiques qui ne permettent pas d'évacuer cette hypothèse d'un lien entre l'exposition aux champs magnétiques basse fréquence et donc les leucémies infantiles. Même si on n'a toujours pas non plus de lien biologique qui permettrait d'expliquer ce lien statistique, on sait qu'il y a à peu près 40 000 enfants qui sont exposés à des champs magnétiques, en gros à moins de 50 mètres, de ces liens à haute tension.
À titre de précaution, l'agence recommande donc de ne pas installer des écoles ou des crèches à proximité des lignes à haute tension. En dehors de ces lignes, les champs électromagnétiques basse fréquence peuvent aussi transiter par les aimants ou les appareils électroménagers. Olivier Merkel tente néanmoins de rassurer.
En dehors de certaines situations peut-être un petit peu exceptionnelles, où on retrouve des niveaux d'exposition un petit peu plus importants qu'ailleurs, en particulier donc au voisinage des lignes à haute tension, mais aussi à côté d'un transformateur, par exemple, dans un immeuble quand on est juste à côté. Sinon, finalement, on est exposé à des niveaux qui sont relativement faibles.
Les champs électromagnétiques s'atténuent par ailleurs très vite avec la distance. Donc en dehors de ces zones où les lignes à haute tension sont trop proches, et à moins d'être collés à un câble électrique, souligne l'ANSES, nos enfants ne sont pas exposés à des niveaux de champs magnétiques très importants.
Environ 60 000 femmes seraient concernées en France par l'excision selon des chiffres qui remontent à 2009. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a lancé ce matin un plan de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Bonsoir Suzanne Chaudjahi.
Bonsoir.
Ce plan a été lancé ce matin à la Maison des Femmes à Saint-Denis et vous l'avez constaté, les associations en attendent beaucoup.
Oui, parce qu'elles ont besoin d'un état des lieux précis et plus local. En France, les trois régions les plus touchées sont l'Île-de-France, la Normandie et la région Sud-PACA. Dans tout le pays, 7300 enfants sont placés sous la protection de l'État parce qu'elles risquent de se faire exciser si elles retournent dans leur pays d'origine, notamment le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc le plan prévoit de signaler systématiquement les personnes mutilées dans les maternités lorsqu'elles accouchent. Il doit permettre aussi de cibler les établissements scolaires où les filles stoppent leur scolarité, car ce sont des victimes potentielles, notamment à l'approche de l'été, rappelle Juliette Vogt, porte-parole de l'association Excision Parlons-en.
Nous, on a une campagne de prévention à destination des adolescentes, puisqu'en France, aujourd'hui, ce sont les filles entre 12 et 18 ans qui sont à risque, qui risquent d'être excisées donc au moment d'un voyage dans le pays d'origine des parents au cours des vacances scolaires d'été. Sur 10 femmes qui ont été excisées aujourd'hui, il y a 3 de leurs filles en fait, qui sont encore à risque.
Et surtout, le dispositif doit relier les différents acteurs locaux, le préfet, l'agence régionale de santé, le rectorat, le procureur de la République, les associations locales bien sûr, créer des outils pour faire circuler l'information, notamment les signalements, et la ville du Havre doit tester le partenariat. Donc la lutte contre l'excision devient une priorité et Isabelle Gillette-Faye s'en réjouit, c'est la directrice du GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles.
Quand une association va vers les collectivités territoriales ou les collectivités locales ou les services déconcentrés de l'État, s'ils peuvent nous donner du temps, ils nous le donnent. Si c'est pas dans leur feuille de route, ils vont pas le faire obligatoirement. Là, à partir du moment où la ministre leur dit « ça fait partie de votre feuille de route, ça fait partie de vos obligations », forcément, ça nous donne un poids supplémentaire et donc on peut toucher un public beaucoup plus important.
Et on rappelle qu'une femme mutilée peut porter plainte jusqu'à ses 48 ans. L'auteur de l'excision et le responsable de l'enfant risquent 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Merci Suzanne Chaudjahi. Et l'opération des chirurgies esthétiques chirurgie réparatrice est remboursée par la Sécurité sociale. Christian Jacob se lance, le patron du groupe LR à l'Assemblée, doit annoncer ce soir au Figaro sa candidature à la présidence du parti. Le scrutin est prévu en octobre. Cette candidature était attendue, surtout après le retrait cette semaine de son principal rival, Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs républicains. Ça ne se bouscule pas pour prendre la tête du parti qui est en déshérence depuis les européennes, mais Christian Jacob pourrait ne pas être le seul en lice, même s'il est l'immense favori, Laurent Sénéchal.
Les partisans de Christian Jacob louent son expérience et sa capacité à jouer le rôle de trait d'union, notamment entre les générations. Il est par exemple soutenu bec et ongle par les jeunes députés. Le sénateur Pierre Charon y voit le dénominateur commun, celui qui a tenu bon pendant la guerre Copé-Fillon en 2012. On peut dire qu'il en a vu d'autres, il a passé le cap Horn, sourit Pierre Charon, qui voudrait maintenant que cette question du chef soit tranchée. Le scrutin est prévu en octobre, on va laisser s'installer bêtement d'autres candidats, déplore le sénateur de Paris. Annie Genevard, secrétaire générale du parti, et Constance Le Grip, membre de la Haute Autorité, défendent ce calendrier. Il permet de respecter les statuts et donc les militants, selon elle. Constance Le Grip se dit même favorable à la pluralité des candidatures, tant qu'elles ne sont pas animées de velléités solitaires. Parmi les concurrents potentiels de Christian Jacob, le vice-président du parti, Guillaume Pelletier, plus les jours passent et moins je l'exclus, disait-il il y a 10 jours. Le nom du député de Lyon, Guillaume Larrivé, est également régulièrement prononcé.
La piétonnisation des quais de Seine, définitivement entérinée par la Cour administrative d'appel, la décision d'Anne Hidalgo a fait l'objet d'un long feuilleton judiciaire qui vient donc de se terminer. Selon la Cour, la maire de Paris a légalement interdit la circulation automobile pour des motifs tenant à la protection et à la mise en valeur de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministère de l'Éducation nationale ne fera pas repasser l'épreuve de mathématiques de ES et L, et pourtant certains éléments ont fuité. Les autorités minimisent cette fuite en assurant qu'elle est circonscrite à 3 ou 4 établissements de la région Île-de-France et que les informations circulaient sur des réseaux privés type WhatsApp. Le ministère de l'Éducation va porter plainte après ces fuites et il lance également une enquête administrative. Vous écoutez France Culture, comme chaque vendredi, c'est le moment de retrouver l'enquête de la cellule Investigation. Bonsoir Benoît Colomba.
Bonsoir Antoine.
Cette semaine, vous nous emmenez en Inde, où 4 journalistes ont récemment été assassinés ou sont morts dans des conditions suspectes pour avoir enquêté sur ce qu'on peut appeler la mafia du sable. Avec le collectif Forbidden Stories, vous avez repris leur travail, car on le sait peu, le sable est devenu une ressource très précieuse.
Oui, après l'eau, le sable est la ressource naturelle la plus consommée dans le monde. Entre 40 et 50 milliards de tonnes sont extraits chaque année dans les carrières, les rivières, dans la mer ou sur les plages. Et des minéraux extraits du sable, en fait, il y en a partout dans notre quotidien, comme l'explique l'auteur du livre noir de la mer, Christian Bucher.
Vous en avez dans les portables parce que c'est le silicium. Vous en avez même dans les lessives parce qu'on en a besoin. Vous en avez dans les engrais agricoles. Vous en avez dans tout le sable. C'est un produit totalement indispensable. Vous en avez dans les voitures avec les pneus. Vous en avez dans tout. Dans les maisons, on est entouré de sable. Vous en avez dans le verre, bien évidemment. Le verre, c'est quasiment du sable pur. Donc vous voyez, partout, tout autour de nous, où que nous soyons, nous sommes entourés de sable. C'est un produit extraordinaire.
Sauf que ce produit extraordinaire, eh bien, il attire aussi la convoitise des mafias, comme dans l'état du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, avec des complicités haut placées, comme en témoigne la journaliste Sandhya Ravishankar.
Le problème, c'est que la mafia du sable a des connexions avec des responsables politiques, des policiers et des fonctionnaires au sein même du gouvernement. Du coup, c'est presque impossible de révéler tout ça publiquement, parce que vous vous retrouvez forcément avec toute l'administration contre vous.
Et Sandhya Ravishankar en sait quelque chose. En 2013, les autorités du Tamil Nadu décident d'interdire l'exploitation et l'exportation des minéraux extraits du sable. Mais la journaliste révèle que cette interdiction n'est pas respectée, notamment par un géant du secteur, la société Vivi Mineral. La réplique n'a pas tardé.
Mon nom a figuré dans un rapport officiel du gouvernement expliquant que je faisais du chantage, que j'étais corrompu. Des exploitants de mines de sable ont mis 5 agences de détectives à mes trousses. On a violé ma vie privée en utilisant des images où on me voit en train de rencontrer une source dans un café. Ces images ont été rendues publiques. Ma moto a été sabotée par un inconnu. Voilà, ça ne s'arrête jamais.
Et tout ça parce qu'elle dénonce un trafic de sable, mais on sait où il est allé, ce sable ?
Alors, en partie, oui. Avec Forbidden Stories, nous avons récupéré des documents confidentiels du port indien de Tuticorin, dans le Tamil Nadu. Ils montrent que pendant 3 ans, de 2013 à 2016, des minéraux extraits du sable indien ont été exportés illégalement à travers le monde, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, mais aussi en France. Nous avons notamment retrouvé le nom d'une PME française qui a acheté un minéral extrait du sable qu'on retrouve dans la fabrication des pièces aéronautique, des plaquettes de frein, des prothèses médicales ou encore des émaux, des carreaux de salle de bain. La dirigeante de cette PME, Joëlle Brio, se dit stupéfaite.
Ça, je ne savais absolument pas.
Ça, vous le découvrez aujourd'hui ?
Ah bah oui, on nous a trompés. Personne ne nous a alertés.
Ces gens-là ont perçu notre argent. Les banques sont fautives aussi. Je suis désolée, mais les banques locales, elles ont bien accepté aussi d'être payées. On n'a jamais caché cette activité à personne. Donc je pense qu'il y a une chaîne d'acteurs qui a été au courant et qui s'est bien gardé de le dire. Les douanes ont laissé passer. Si tout le monde nous trompe, ça a les apparences de la normalité.
Et dans un rapport publié récemment, l'ONU estime que l'extraction du sable dans le monde tourne au désastre écologique et qu'elle n'est pas assez contrôlée.
Merci à vous, Benoît Colomba. Votre enquête est à retrouver sur le site franceculture.fr. Demain après-midi, temps agréable. Sur une grande partie du pays, le soleil dominera, exception dans le nord-est qui sera sous la pluie. Il fera 21 degrés à Cherbourg, 25 à Paris, 29 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h avec Mathieu Laurent.